Raconte-moi une histoire. L'émission qui parle d'histoire avec un grand H.
Bonjour, nous sommes avec Simon Louvet, auteur de Isidore et Simone, avec le dessinateur Remedium, qui vient de nous parler de sa bande dessinée et qui va répondre aux questions des élèves de 3e C, en commençant du coup par la démarche qui a amené à la création de cette bande dessinée.
Dans cette BD, vous parlez de l'histoire de vos arrière-grands-parents, mais alors que vous ne les connaissez pas. Comment avez-vous retracé leur histoire si précisément ?
Alors, je ne les ai pas connus. Enfin, j'ai un peu connu Isidore parce qu'il est décédé en l'an 2000. Moi, j'avais 6 ans, donc je l'ai croisé, mais j'étais trop petit pour pouvoir lui poser des questions. Et donc, pour retracer cette histoire, j'ai d'abord posé des questions à ma grand-mère et à sa sœur, qui sont les filles d'Isidore et Simone. Et puis, j'ai aussi utilisé beaucoup de documents, des documents à la fois qui étaient restés dans la famille, des archives de la famille, donc des photos, des carnets, des documents administratifs, aussi des documents que je suis allé chercher ailleurs, dans des services d'archives, les archives des armées, les archives du maquis où était Isidore, les archives de départements où ils ont vécu, pour réussir à reconstituer ce fil et réussir à raconter leur vie à ce moment-là.
Comme vous êtes journaliste et non historien, comment avez-vous eu l'envie de créer cette bande dessinée ?
Alors j'ai commencé, en fait j'étais en reportage en tant que journaliste à Auschwitz. Un historien m'a mis la puce à l'oreille sur l'importance de préserver les photos des déportés pour leur rendre leur humanité alors que les nazis voulaient les détruire et donc détruire leur humanité. J'ai regardé sur le site du Mémorial de la Shoah, il y avait bien les noms des gens de ma famille mais il n'y avait pas de photos alors que je savais qu'on avait les photos. Donc en partant de ça, j'ai commencé à travailler en fait le soir. Donc la journée, je faisais mon travail de journaliste et le soir, je faisais des petites recherches. D'abord, je faisais une petite demi-heure de recherche, puis 1 heure, puis 3 heures, puis 4 heures. Et en fait, ça me prenait de plus en plus de temps. Et surtout, j'avais besoin de plus en plus de méthodes historiennes pour pouvoir travailler. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris mes études en histoire, du coup, pour continuer mes recherches et pour avancer et aboutir à ce livre. Et je continue là mes études en ce moment.
D'accord. Sachant que cette année, cela va faire 91 ans que la France a été libérée, qu'est-ce que cette BD peut apporter ?
C'est une petite pierre, c'est ma part de mémoire pour permettre que cette période ne soit pas oubliée et qu'on puisse se souvenir de ce qu'un être humain peut faire à la fois de pire et de meilleur dans une situation extrême. La guerre, c'est terrible et la Seconde Guerre mondiale l'a particulièrement été et elle a exacerbé le meilleur chez certains, ceux qui ont sauvé ma grand-mère, le pire chez d'autres, ceux qui sont allés arrêter les parents d'Isidore et de Simone chez eux juste parce qu'ils étaient juifs. C'est important de poser cette histoire parce que là, c'est l'histoire d'une famille juive, mais ça peut être une autre famille d'une autre confession ou d'une autre religion, enfin d'une autre origine. Où il y a toujours des gens qui vivent avec la haine dans ce pays et dans d'autres. Et mon objectif à moi, c'est de d'aider à ce que ça se reproduise pas, ni avec les juifs ou avec d'autres personnes.
Alors, nous poursuivons avec une autre thématique. Les élèves de 3e C ont travaillé cette année sur le maquis sur Couffe, le maquis local, et se sont inspirés de ce travail pour vous poser quelques questions sur le maquis qu'a intégré Isidore.
Nous avons vu que pour entrer en résistance dans un maquis, il fallait un mot de passe et plusieurs étapes pour assurer la sécurité du maquis sur Couffe de Bezuil, par exemple. Était-ce pareil dans le maquis de votre arrière-grand-père ?
Alors, c'était pareil. La particularité de Vabre, c'est que c'est dans une vallée très difficile d'accès. Et à l'époque, le plus simple pour y aller, il y avait un petit train qui remontait depuis la grande ville Castres. Le petit train remontait, il s'appelait le Tortillard. Donc, ça montre bien tous les petits virages qu'il devait y avoir. Et les chefs de gare étaient complices de la résistance. Et la ligne de téléphone utilisée par les résistants suivait, c'était celle du train. C'était une ligne que les Allemands avaient oublié de surveiller. Et les chefs de gare avaient le mot de passe. Il fallait aller les voir et leur dire, leur poser une question. Mais en fait, la vallée, dans la vallée, tout le monde était tellement au courant du maquis et de ce qui se passait qu'en fait, les gens, il y a des gens qui montaient à Vabre et qui allaient directement toquer dans la maison officielle du chef du maquis. Il s'appelait, son vrai nom c'est Guy Drouville, son nom de résistant c'est Paul Roux. Les gens allaient toquer chez Guy Drouville en disant « je voudrais voir Paul Roux, c'est pour entrer au maquis ». Donc c'était pas hyper sécurisé, mais comme globalement dans la vallée tout le monde était complice et ceux qui n'étaient pas trop d'accord n'ont pas dénoncé, donc ils n'ont pas subi de trop grosses représailles. Voilà, c'était pas très sérieux au niveau de la sécurité.
Les personnes qui rentrent en résistance sont révulsées par la guerre, comme Simone Sauter, une résistante locale que nous avons étudiée. Est-ce aussi parce que votre arrière-grand-père était révulsé par la guerre qu'il est rentré en résistance ?
Je pense que la raison pour laquelle il est rentré en résistance, comme beaucoup d'autres, c'est pour se sauver sa vie. Parce que s'il était resté à Toulouse, il y a de grandes chances pour qu'il soit arrêté. Quitte à se cacher, autant se cacher en étant utile et en aidant la résistance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça et c'est très humain. La BD raconte pas forcément une histoire d'un héros, elle raconte l'histoire de personnes qui ont fait ce qu'elles ont pu pour survivre et pour aider les leurs, les membres de leur famille et leurs amis à survivre. Et c'est, je pense, ce qu'ont vécu Isidore et Simone. Et après, par contre, il y a aussi une certitude, c'est que Isidore était extrêmement attaché aux valeurs françaises, aux vraies valeurs françaises, à celles notamment de la Révolution, celles du pays des droits de l'homme, et que c'est aussi pour ça qu'ils sont allés au maquis.
Nous avons vu dans notre cours que devenir résistant pouvait être dangereux. Est-ce que votre arrière-grand-père a rencontré des risques en devenant résistant ?
Il en a forcément rencontré parce qu'il était dans un secteur où les Allemands ont attaqué au moins deux fois, où il y a eu des morts du côté des maquisards. Il y a aussi eu une bataille, une attaque de train à laquelle Isidore a participé. Donc oui, il y avait des choses dangereuses, mais il y a eu dans les gens... Qui étaient au maquis avec Isidore. Certains ont accompli des missions encore plus dangereuses. C'est pas lui qui a vécu les expériences les plus risquées. Mais à partir du moment où on est au maquis, c'est le danger.
On a vu que certaines personnes collaboraient avec les Allemands en divulguant des informations sur le maquis et leurs résistants, par exemple. Vos arrière-grands-parents ont-ils eu des problèmes avec les collaborateurs ?
Alors, outre le fait que leurs parents aient été arrêtés, alors je ne sais pas si c'était sur des dénonciations, mais en tout cas, ils ont été arrêtés par la police et la gendarmerie française qui collaboraient. Mais ça, ce n'est pas le maquis, c'est en dehors du maquis. Avant le maquis, Simone a été dénoncée par son patron, parce que son patron voulait avoir des relations intimes avec elle. Elle a refusé. Et donc, son patron l'a dénoncée comme juive. Et ça, c'est un élément assez intéressant. Et au-delà de ça, j'ai pas de preuve qu'ils aient été dénoncés à un moment ou à un autre. Et au maquis, à Vabre, il n'y a pas eu de dénonciation et le village est reconnu village des justes parce que tous les juifs qui ont été hébergés dans le village ont survécu à la guerre.
Bien, nous continuons toujours sur la question de la résistance avec la question de l'organisation du maquis. Comment faire pour survivre dans le maquis ?
Nous avons vu que les résistants réquisitionnent la nourriture et le matériel des fermiers. Comment cela se passe-t-il pour le groupe des résistances auquel appartenait Isidore ?
Alors, il y a beaucoup de réquisitions, ça existe. Le Tarn, la partie où ils sont, c'est une partie très agricole. Donc, il y a des pommes de terre, il y a aussi du bétail. Donc, il y a beaucoup de réquisitions. Ils descendent un peu sur la vallée pour aller chercher des produits laitiers, pas mal de choses, mais... En soi, la région était déjà un peu autosuffisante. Il y avait les cochons, il y avait des choses qu'on ne trouvait pas à la ville. Et globalement, les agriculteurs étaient d'accord avec la résistance. Et la preuve, c'est que la journée, ils labouraient les champs et la nuit, ils prêtaient les charrettes pour venir récupérer les parachutages qui tombaient sur le terrain que sécurisait la compagnie d'Isidore. Donc, C'est une des principales sources d'approvisionnement et c'est aussi ce qui a fait qu'ils n'ont pas eu besoin d'attaquer, par exemple, des dépôts de nourriture militaire ou voilà, ils n'ont pas eu besoin de ça pour se nourrir. Ils arrivaient à trouver autour d'eux suffisamment de choses, mais il y a des moments où ils ont eu très faim. Voilà, il y a une anecdote d'un fermier qui enterre son cochon malade. Le cochon vient de mourir et les résistants ont tellement faim qu'ils déterrent le cochon et qu'ils le cuisinent alors qu'il était mort d'une maladie improbable, enfin que personne ne connaissait, et ils l'ont quand même mangé parce qu'ils avaient vraiment trop faim, quoi. Voilà.
Nous avons appris que les résistants se cachaient dans certains endroits comme dans des fermes. Où le groupe de résistants auquel appartenait Isidor se cachait-il ?
Eh ben, il se cachait dans une ferme, enfin dans des fermes, parce qu'il y avait plusieurs lieux, ce qu'on appelle des cantonnements, qui étaient répartis dans la vallée. Et là-bas, dans le Tarn, on appelle ça une jasse, c'est une bergerie. Et c'est un lieu soit pour les moutons, les brebis, ou alors c'est un lieu de repos pour le paysan qui a travaillé sa terre. Et donc, les résistants sont allés repérer les lieux qui étaient les plus cachés, les maisons déjà existantes, les jasses déjà existantes, les plus cachées, pour pouvoir s'y installer. Et donc, Isidor était dans le cantonnement où il était dans un renfoncement entre deux routes, mais renfoncement particulièrement creux qui permettait que ce soit caché par de la végétation. Et surtout, important, il y avait une source d'eau directement à côté du cantonnement, ce qui permettait de ne pas avoir à se déplacer pour prendre de l'eau. Et ils ont vécu là. C'est sûr qu'Isidore a vécu que à cet endroit-là, jusqu'à ce que ce cantonnement soit bombardé par les Allemands en août 1944. Et donc, ça a été détruit. Et donc, les affaires des maquisards ont été détruites aussi dans ce bombardement.
Nous avons appris que dans les groupes de résistants, il y a des règles. Quelles règles organise le groupe d'Isidor ?
C'est une très bonne question. Il y a une règle qui est au moins... Alors, ce n'est pas une règle pour tout le monde, mais c'est une règle qui est au moins quelqu'un qui écoute la radio parce qu'il faut savoir quand le message des parachutages arrive. Après, dans ce maquis-là, dans le groupe d'Isidor, il y a cette particularité que sur plus d'une centaine de résistants, la quasi-totalité est juive. Et donc, il y a des rites juifs qui sont respectés. Pas forcément par tout le monde, ceux qui ne veulent pas ne le font pas. Mais il y a des prières. Ils essayent de faire Shabbat. Ils essayent de manger kasher. Alors ça, c'est très compliqué. Quand on a faim, de un, et de deux, quand on est dans une région où on mange beaucoup de cochons, et le cochon, c'est pas kasher. Donc, y a ces petites règles de vie. Et après, dans les questions de vie quotidienne, y a beaucoup d'entraînement. Ils s'entraînent, ils prennent des pommes de pin, ils s'entraînent comme si c'était des grenades. Ils apprennent à monter et à démonter leurs armes. C'est une sorte de rigueur quotidienne de faire de l'exercice physique pour rester en forme et être prêt le jour où il y aura assez d'armes pour pouvoir combattre les Allemands.
Nous faisons une petite pause musicale et nous retrouvons notre invité dans quelques minutes. De retour sur le plateau de RJB avec Monsieur Simon Louvet.
On reprend avec les actions du maquis une fois installé. Que font les maquisards dans leur région?
Nous avons vu que dans le maquis sur Clouf, les résistants tendaient des embuscades aux Allemands. Est-ce que Isidore tendait des embuscades aux Allemands avec son groupe de maquis?
Alors, Isidore tout seul non, mais oui, il y a eu des groupes organisés. En fait, dans le maquis, dans les maquis de Vabre, il y avait plusieurs types de sections, plusieurs types d'unités. Et il y avait à la fois des unités de saboteurs et des unités de ce qu'on appelle des fusiliers voltigeurs. Et donc, c'était en fait ceux qui avaient les plus grosses mitrailleuses et qui pouvaient s'installer pour des embuscades. Isidore n'a pas été, a priori, dans ces groupes-là, ni sabotage, ni fusiliers voltigeurs. Je pense qu'il était plutôt, en tout cas, j'ai un document, un carnet, qui me laisse à penser qu'il était plutôt chargé de l'intendance, donc même pas forcément au combat tout le temps en tout cas, plutôt chargé d'organiser la vie quotidienne, le rationnement de la nourriture, tout ça. D'autres, par contre, tendaient des embuscades, et il y a par exemple le 5 août 1944, l'embuscade de Cambus, où plusieurs maquisards tendent une embuscade à un convoi allemand, tuent plusieurs soldats allemands, mais perdent un des principaux chefs de la résistance locale, qui est tué d'une rafale de mitrailleuse à ce moment-là.
Nous avons également vu que dans le maquis sur Clouf, les résistants cachaient des aviateurs anglais et les aidaient à retourner en Angleterre. Est-ce que Isidore a aidé à cacher des aviateurs?
Alors Isidore non, mais par contre, de la même manière que le réseau actif dans le maquis sur Couf, il y avait au maquis de Vabre des résistants qui ont participé à un réseau qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle le réseau Françoise. Et il m'intéresse parce que c'est une femme, Marie-Louise Dissard, qui était à la tête de ce réseau. Son nom de code, c'était Françoise. Et Marie-Louise Dissard et son réseau, dont Jean Bovis et plusieurs maquisards de Vabre, ont aidé à faire exfiltrer plus de 700 aviateurs et militaires anglo-américains, plus de 700 personnes qu'ils ont aidé à faire passer via l'Espagne, donc en traversant Toulouse, les Pyrénées, l'Espagne vers le Portugal. Et donc, il y a plus de 700 personnes qui ont été exfiltrées comme ça. Et il y a des connexions entre donc, le réseau Françoise de Marie-Louise Dissard et les maquis de Vabre, puisque plusieurs résistants de Vabre sont passés par le réseau Françoise ou étaient actifs dans les deux en même temps. Et il y avait à Vabre ce qu'on appelle un DMR, c'est un délégué militaire régional. C'est un des 27 ambassadeurs de la France libre et du général de Gaulle qui était en poste en France. Et il y en a un qui était à Vabre, qui était protégé par une unité spéciale. Et lui, il est passé par ce réseau-là. Donc il y avait des contacts très intéressants avec ces filières d'évasion qui ont aussi servi à sauver des enfants juifs.
Dans la résistance, les résistants donnaient des informations aux forces alliées et les alliés faisaient de même, notamment avec les messages codés via la BBC. Quelles étaient les relations entre Isidore et son maquis avec les forces alliées?
Et ben alors justement, grâce au délégué militaire régional, donc l'ambassadeur de la France libre, le délégué militaire régional, son arme de guerre principale, c'est sa radio, ce qu'on appelle un piano. Et ce piano permettait d'avoir des échanges avec Londres ou avec Alger, puisqu'il y avait, au moment où il y a les maquis de Vabre, Alger est libéré et il y a l'armée américaine là-bas, les alliés sont à Alger. Et d'ailleurs, les parachutages qui vont arriver à Vabre, c'est le sud de la France, c'est des parachutages qui partent de Blida en Algérie. Et donc, il y a des contacts directs entre l'organisation de la résistance au niveau le plus haut et le Tarn, notamment pour les parachutages et pour des contacts. Et donc, le message codé pour la région de Vabre, pour le terrain de parachutage que l'unité d'Isidore était chargée de sécuriser, c'était de la chouette au merle blanc, le chargeur n'a que 20 balles. Et en fait, la chouette, c'est le nom de code de l'agent qui était à Londres. Le merle blanc, c'est le nom de code de l'ambassadeur qui était à Vabre. La suite du message variait selon l'information qu'il y avait à passer. Par exemple, dans la nuit du 5 au 6 août 44, la radio dit de la chouette au merle blanc, 15 amis vous diront ce soir que le chargeur n'a que 20 balles. Ce qui voulait dire que 15 personnes allaient être parachutées. Donc il y a un commando américain qui a été parachuté avec 15 personnes et des armes dans cette nuit, la nuit qui a suivi ce message-là.
Alors, nous quittons la résistance pour nous intéresser à l'antisémitisme en France pendant la guerre et comment les mesures du régime de Vichy ont impacté la vie d'Isidore et de Simone.
Nous avons vu qu'avec le régime de Vichy, il y a eu des lois antisémites qui empêchaient les Juifs de travailler, de se nourrir, etc. Comment Isidore et Simone ont-ils vécu avec ces lois ?
Alors, comment ils ont vécu directement, c'est... Je peux, j'ai pas la réponse pour tout, mais j'ai la réponse notamment pour le travail d'Isidore, puisque le statut des Juifs pris par le régime de Vichy en octobre 1940 interdit les Juifs de plusieurs professions, notamment la fonction publique. Et Isidore a été expulsé de son travail de fonctionnaire qu'il occupait depuis plusieurs années, et un travail où il était compétent, puisque j'ai ses cartes de fonctionnaire où on voit qu'il est promu quasiment tous les deux ans. Donc il progresse bien. Il travaille bien, a priori tout le monde est content de lui, mais parce qu'il est juif, donc uniquement parce qu'il est quelqu'un, il est expulsé, donc ça c'est une conséquence déjà importante. Évidemment, il y a toutes les conséquences en termes de citoyenneté pour ses parents et son petit frère, puisque eux perdent la citoyenneté française, ils sont dénaturalisés, ça veut dire qu'ils deviennent apatrides, donc ils n'ont plus de nation, plus de pays, donc plus de droits en fait. Après, dans les autres conséquences, il y a la difficulté à trouver du travail. Par exemple, Isidore, après être exclu de la fonction publique, il trouve un nouveau travail, mais il est expulsé. Enfin, il est expulsé. On lui demande gentiment de ne plus venir travailler. Il n'est pas vraiment expulsé, mais bon, c'est tout comme. Et il veut s'inscrire à une école pour apprendre la comptabilité, pour compléter ses compétences, et il doit passer par un ami qui s'inscrit pour lui et qui lui envoie les cours par correspondance, enfin un truc très compliqué, alors qu'en fait il n'était pas interdit de faire ça, de s'inscrire en direct parce qu'il est juif, il aurait juste à envoyer sa candidature, on l'accepte, il prend les cours et puis voilà. Mais non, là il faut que quelqu'un fasse l'intermédiaire, donc il y a plein de choses comme ça qui compliquent la vie. Et ça va de compliquer un peu la vie, à pourrir la vie, à mettre la vie en danger et à chercher à faire mourir les gens. Enfin, il y a toute une gamme de choses très différentes.
Nous avons étudié que pendant le régime de Vichy, la police et les Allemands traquent les Juifs
pour les placer dans les camps de concentration. Je vous demande alors comment Simone et Isidore ont fait pour ne pas se faire arrêter.
C'est une des grandes questions à laquelle j'ai pas de réponse sûre et certaine, mais il y a de très grandes chances pour que Isidore et Simone aient eu des faux papiers à un moment. Et en fait, je le sais sans avoir de preuves, mais je le sais de manière indirecte parce que il y a une famille juive qui a toute sa vie remercié Isidore et remercié mes grands-parents, ma grand-mère. Parce que Isidore et Simone leur auraient donné des faux papiers. Ça, c'est ce que ma grand-mère m'a raconté. Je l'ai pas mis dans le livre parce que déjà j'ai pas de preuves et en plus c'est un peu nébuleux. C'est enfin, mais il y a cette anecdote qui traîne et qui me fait penser que Isidore et Simone ont eu des faux papiers et ont été en mesure de donner des faux papiers à des amis à eux pour les protéger aussi. Donc je pense que ça aide énormément, mais j'ai pas ces faux papiers. Et donc, j'aimerais bien en trouver des traces, mais c'est très compliqué.
On continue avec la question de la déportation et des camps qui ont touché une large partie de la famille d'Isidore et de Simone avec les dernières questions.
Nous avons étudié la déportation des Juifs et nous aimerions savoir dans quelles conditions vos arrière-arrière-grands-parents ont été déportés.
Pour les parents d'Isidore, ils habitaient à Paris. Les parents d'Isidore et son petit frère Léon, ils habitaient à Paris et ils ont été arrêtés de deux manières différentes. Victor, le père d'Isidore, il a été arrêté dans la rue, dans le 11e arrondissement de Paris, rue Popincourt, là où il habitait. Il a été arrêté avec Victor, son frère, avec Marco, son frère. Donc Victor, le père d'Isidore, et Marco, l'oncle d'Isidore, ont été arrêtés ensemble. Victor a été déporté un an plus tard, donc il est arrêté par la police française. Marco a eu un parcours beaucoup plus mouvementé parce qu'il a été libéré à cause d'une maladie qu'il a eu en novembre 1941. Il a eu un métier qui lui permettait d'avoir une carte qui le protégeait des arrestations, ce qui était pratique pour lui parce que ça le protégeait lui, mais aussi sa famille. Et Marco, il était marié et il avait 5 enfants, donc 5 enfants à protéger. Mais malheureusement, Marco, il a été arrêté en 1944, raflé dans la rue, et il a pris le dernier train et il n'est pas revenu. Donc ça, c'est pour Victor et Marco. Victor, lui, a été déporté en septembre 1942, et Rachel et Léon, ils ont été arrêtés chez eux. Et j'ai un témoignage d'une voisine. Il y a eu une enquête de police après la guerre, et il y a une voisine qui témoigne et qui vient raconter, sur demande d'Isidore, a priori, qui cherchait ses parents, elle vient raconter: tel jour, j'ai entendu tel bruit, j'ai regardé, j'ai entendu que la porte claquait et puis qu'ils venaient chercher. Donc, je sais à peu près comment la maman et le frère d'Isidore ont été arrêtés. Et pour les parents de Simone, ils ont été arrêtés par la gendarmerie de Melun, donc à côté de Paris, pas très loin. Et ça, on le sait déjà parce qu'il y a des archives, il y a des archives de l'administration, mais aussi parce que ils sont, quand Florence et Joseph sont à la gendarmerie de Melun, ils envoient une lettre pour dire: nous sommes à la gendarmerie de Melun, nous allons partir vers Drancy, n'ayez pas peur. Et après, tout un discours religieux, parce que la maman de Simone était très religieuse, et elle dit: nous sommes ici sur terre pour souffrir, c'est la volonté de Dieu. Enfin bon, quelque chose qui est assez difficile à lire. Et elle envoie après plusieurs lettres depuis Drancy, une fois qu'ils sont transférés. Donc voilà les parcours pour les parents d'Isidore et Simone.
Nous savons que les nazis essaient d'enlever toute trace du passage des Juifs. Donc nous aimerions savoir si vous avez retrouvé des traces de vos arrière-grands-parents.
Alors oui, parce que pour une raison que je ne m'explique pas, des documents d'avant la guerre ont survécu, à la fois à la guerre, mais à la fois ils ont survécu à tout. Donc, par exemple, dans les documents que j'ai utilisés, et c'est grâce à Isidore, Isidore a sauvé les avis d'imposition des parents de Simone. Donc, pour l'année 1935, 36, 37, 38, 39, 40, 41, j'ai les impôts déclarés par Joseph et Florence, les parents de Simone. Et alors, dit comme ça, c'est un peu ennuyeux, je comprends. Mais en fait, ça me permet d'avoir leur adresse, l'argent qu'ils gagnaient, quel métier ils faisaient, et plein d'informations hyper utiles qui me permettent de retrouver leurs traces. Pour les parents d'Isidore, j'ai leur dossier de naturalisation, donc une 50aine de pages, avec même un courrier qu'a envoyé Victor au ministère de la Justice pour demander pourquoi il n'avait pas de nouvelles de sa naturalisation, de sa demande de naturalisation. Il y a un entretien, un interrogatoire de police, j'ai tout le document, parce qu'il fallait être interrogé par un policier avant de pouvoir être naturalisé. Donc ça, ça me donne énormément d'informations pour le livre, et on a utilisé ces informations-là pour le livre. Et par exemple, le questionnaire qui est rempli par le policier qui interroge Victor, on l'a transformé en pages. Il y a 4 pages où il y a un dialogue, le policier face à Victor, et on a pris les informations qui sont dans le questionnaire. Donc on a des documents qui nous ont donné, on a inventé aucune question, aucune réponse. Voilà.
Et nous aimerions aussi savoir si vous savez dans quel camp vos arrière-grands-parents ont été déportés.
Oui, ils ont été déportés à Auschwitz, comme quasiment tous les Français juifs qui ont été déportés depuis Drancy. Au total, il y a 76 000 juifs français ou juifs de France qui ont été déportés et qui ne sont pas revenus. Et il y a à peu près 3 000 personnes qui ont survécu, donc c'est très peu. Et pour donner juste un exemple, mais sur le convoi de Léon, le premier à partir de la famille, avec Léon, il y a 1000 personnes qui partent et il y a 5 survivants en 1945 à la libération du camp. 5 sur 1000. Il y a plus de 99% des gens qui ont été tués, qui ont été assassinés dans le camp, et c'est une statistique qu'on retrouve pour quasiment tous les convois qui concernent ma famille, à l'exception du dernier, mais c'est pas... C'est celui qui est parti donc le 31 juillet 1944. Les gens ont passé moins de temps à Auschwitz. Mais là, il y a 80% de gens qui sont tués quand même. Donc, c'est quand même énorme. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses qui nous ont éclairés sur cette bande dessinée, de manière générale sur l'histoire. Hein. C'est, comme vous l'avez dit, la petite histoire qui croise la grande. Hein, et c'était très intéressant pour nous tous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RGB. la radio du collège Jacques Brel.
Raconte-moi une histoire. L'émission qui parle d'histoire avec un grand H.